François Amblard, vous êtes le président de la Chambre des ingénieurs conseil de France. Nous fêtons aujourd'hui les 100 ans de la Chambre. Alors, cette Chambre, comment se porte-t-elle au bout de 100 ans ?
Ben d'abord, elle se porte plutôt bien, ne serait-ce que pour avoir duré si longtemps. On ne peut pas durer si longtemps si on ne se porte pas bien. On a eu dans nos présentations ce matin des exposés sur la santé. Et on voit bien qu'on ne peut pas durer sans être en bonne santé. Donc, notre Chambre est nécessairement en bonne santé. Elle est d'autant plus en bonne santé que depuis bientôt 6 ans que je suis à la présidence de cette chambre syndicale, d'un syndicat représentatif, c'est extrêmement important cette nuance. Nous avons fait beaucoup d'efforts de communication pour être présents, pour être connus, pour communiquer au sens large du terme, et ça a eu un effet évident et relativement rapide, puisque lorsque je suis rentré à la CICF comme président fédéral, nous étions à peu près 500, un petit peu moins de 500 adhérents, et qu'aujourd'hui nous sommes aux environs de 2000. Donc ça met en évidence que ça marche plutôt bien. Alors, pourquoi on se porte bien et est-ce qu'on se porte bien ? Si on dit pourquoi on se porte bien, on aura la réponse si oui ou non on se porte bien. Premièrement, une volonté évidente de s'intéresser à la fois à la partie technique commerciale, au lobby du travail de nos adhérents, au travail de ceux qui ne sont pas adhérents et qui pourraient l'être. Et si on s'intéresse au travail des professionnels de notre branche, ça les motive, bien sûr, à adhérer. Et quelque part, ils ont une sensation de retour sur investissement, l'investissement étant leur cotisation. Alors bien sûr, ce n'est pas un retour sur investissement, je mets 100 sur la table et au bout de l'année, je dois en retirer 110, 120, 130, c'est pas ça. C'est je mets 100 sur la table et il y a des gens qui font que mon métier se développe et mon métier est reconnu. Et à moi, en tant qu'entrepreneur, d'exploiter ce lobby collectif pour en retirer moi-même du profit dans mon entreprise. Nous sommes un syndicat patronal et nous l'affirmons avec force. On doit donc défendre les entrepreneurs de notre branche, défendre ceux qui entreprennent et ceux qui sont responsables de leur boutique. On peut être responsable d'une boutique unipersonnelle. Ce n'est pas une question de nombre de salariés, c'est de notions totalement différentes, même si on a tendance à dire qu'une entreprise n'existe réellement que si elle a des salariés. Mais pour moi, c'est complètement faux. Une entreprise, elle existe à partir du moment où le matin, on se lève et qu'on va chercher sa croûte et qu'on obtient une activité, une mission, ce qui est souvent le cas dans notre branche, on appelle ça des missions, et que cette mission nous permet de facturer et donc d'avoir des revenus. Ce n'est pas la même chose quand on est salarié, puisque c'est un patron qui va chercher la mission, qui nous l'a fait faire, et on est payé pour la faire. C'est un petit peu différent. Donc, dès l'instant qu'on a un contact direct avec le client, que l'on vend sa prestation et qu'on est autonome, on est entrepreneur, même si on n'a pas de salarié. Donc, notre chambre, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle s'est intéressée, davantage que par le passé, au développement et au lobby de nos professions, être vigilant sur ce qui se passe en termes de normes. Est-ce que les nouvelles normes ne vont pas à l'encontre de nos activités ? Est-ce que les nouvelles normes, au contraire, on peut peser dessus pour qu'elles renforcent notre activité ? C'est ce qui a été fait dans tout le domaine de l'énergie, par exemple, pour l'ensemble de nos adhérents qui relèvent de ce que chez nous on appelle le syndicat construction. Hier, CICF Construction, et demain, Sinov Construction. Aujourd'hui, Sinov Construction. Et donc, on s'implique, notre syndicat s'implique dans tous ces milieux de réflexion, d'évolution normative. C'est un moyen de veiller, de développer nos professions. On fait la même chose dans d'autres secteurs. En termes de conseils, notre syndicat qui s'occupe du conseil en management a fait un travail admirable par une enquête sur l'achat de prestations intellectuelles en termes de conseils, pour arriver au constat que malheureusement la culture de l'entrepreneur français est pas toujours ce qu'on pourrait espérer pour lui-même déjà en termes d'acquisition de prestations de matières grises. Trop d'entrepreneurs pensent que s'ils sont entrepreneurs, c'est qu'ils sont bons, et s'ils sont bons, ils n'ont pas besoin de conseils. C'est un peu dommage.
Alors justement, aujourd'hui, il y avait deux questions qui se posaient. Une qui était sur la représentativité du syndicat et une qu'on pourrait étendre jusqu'à ce point. Est-ce que le conseil se vend bien finalement dans un milieu franco-français ?
Alors, il se vend sans doute beaucoup mieux aujourd'hui qu'il s'est vendu dans les années 80. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées par les normes, par le droit du travail, par le lobby, par la concurrence internationale. Par le côté juridique aussi de nos professions, on ne signe pas un contrat impunément. Quand on signe un contrat avec quelqu'un, on prend un risque. Inévitablement. Et donc, le fait de prendre un risque, ça impose à réfléchir un peu et j'allais dire à prendre conseil. Quand on est dans cette notion de prendre conseil avant de signer, on est proche d'accepter de payer le conseil. Alors le conseil, il y a des domaines où il est connu, reconnu et jamais discuté. C'est par exemple dans le monde de la comptabilité. N'importe quel entrepreneur accepte de payer un expert comptable. N'importe quel entrepreneur accepte, quand il construit une usine, de payer un architecte. Pourquoi ? Parce que ce sont des professions ordonnées et incontournables. Vous ne pouvez pas avoir des comptes certifiés s'il n'y a pas un expert comptable qui certifie les comptes, voire un commissaire aux comptes, que vous payez. Mais il est dans une profession ordonnée. Quand vous achetez quelque chose, vous passez chez le notaire. Parce que c'est une profession de prestation intellectuelle incontournable. On peut même dire, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Là, l'avantage, c'est que c'est remboursé par la Sécu, c'est la grande différence. Mais ça n'empêche pas que vous avez bien acheté un conseil. On pourrait imaginer quelqu'un de très compétent qui aille directement chez le pharmacien en disant « je veux tel médicament » au problème de remboursement près. Et aujourd'hui, il y a des caisses complémentaires, c'est le cas de Maricom d'ailleurs, qui acceptent de rembourser l'automédication. Pour une faible partie, certes, mais non négligeable, d'une centaine d'euros par an. Je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire qu'il y a des domaines où il n'y a aucun problème d'aller acheter du conseil. Parce que ce sont des professions ordonnées et que ce conseil est obligatoire dans une démarche. Ce n'est pas du tout le cas de nos métiers de conseil qui sont des métiers sans ce qu'on appelle des professions non ordonnées, hein, relevant de la libre entreprise. À partir de là, le fait que ces prestations intellectuelles de conseil, au sens large du terme, quelqu'un qui fait de l'ingénierie fait toujours un peu de conseil, eh bien, ces prestations-là, l'industriel moyen n'a pas forcément la culture de se dire « il faut que j'achète du conseil avant de passer à l'acte ». À nous, et c'est le rôle d'un syndicat professionnel, de démontrer que acheter du conseil, c'est pas forcément acheter globalement moins cher, mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'acheter mieux.
Alors donc un syndicat qui est représentatif de la profession, un syndicat qui défend la profession, donc il faut acheter ce conseil que vos membres savent faire, et un syndicat qui après ses 100 premières années vient de changer de nom. Alors est-ce qu'on peut, sur la base de ce changement de nom, se projeter un petit peu dans l'avenir ?
Oui, c'est à la fois simple et rapide. Alors premièrement, quand il y a déjà plusieurs années, bien sûr, quand on s'est dit en 2012, il faut qu'on marque notre centenaire, ça a été l'occasion, à l'occasion du centenaire, de faire un petit peu un point, ça me paraît légitime et sain, de dire, bah, tiens, il y a 100 ans qu'on existe, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on représente. Donc on a lancé une enquête, des travaux pour organiser notre centenaire. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait, si je puis me permettre, des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on était la chambre de l'ingénierie du conseil. À l'origine, nous étions la chambre des ingénieurs conseils de France, institut personnel, et que cette notion donc de chambre ne reposait que sur la notion d'ingénierie et sur la notion de conseil. Or, il y a une nouveauté dans les années 80 qui a été de rattacher à notre branche professionnelle tout le secteur du numérique, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque plutôt l'informatique. Puis aujourd'hui, c'est le numérique. Mais c'est la même chose, c'est l'évolution. C'est le mot qui a évolué, mais le fond est le même. Et donc, derrière cette appellation « chambre de l'ingénierie et du conseil », il y avait un parent prouve qui faisait pourtant partie de notre branche professionnelle, qui était le numérique. Et nombre d'adhérents de chez nous, du monde du numérique, disaient « vous êtes bien gentils, mais nous, on ne fait pas d'ingénierie, fait un peu de conseil, mais notre vrai métier, c'est le numérique. Et on veut exister au travers de notre fédération. Et d'où cette notion de se dire, si on veut garder le I, si on veut garder le C, pourquoi pas, mais ça ne peut s'accepter qu'en y ajoutant le N quelque part. Donc c'était déjà une volonté de, si on doit parler de l'ingénierie, si on doit parler du conseil, on peut continuer à condition de parler du numérique en même temps. Deuxième chose, on avait une appellation qui était un acronyme, c'est ICF, Centre de l'ingénierie du conseil de France. Et c'est un peu frustrant parce que dès l'instant qu'il y a une évolution de métier, en gros, si on veut être logique, chaque fois qu'il y a une évolution de métier, il faudrait changer de sigle pour reprendre l'acronyme correspondant. Et par ailleurs, la prononciation CICF, c'est facile, c'est pas facile à décliner. Hein. On est CICFiste, c'est la CICF, le CICF. Bon. Enfin, tout ça a fait qu'il y a une réflexion qui a été poussée, qu'on s'est dit il faut qu'on ait un nom. Il faut qu'on ait un nom plus court. Le but de cette réflexion, c'est d'avoir un nom qui puisse être une marque par le nom même, qui puisse être plus représentatif, qui soit un nom à la limite qui s'impose et pour lequel on oubliera ce que ça veut dire. Hein. Aujourd'hui, on a la volonté de dire on s'en fiche que ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est que au travers du nom, on dit ah, celui-ci, il appartient à X, et ça suffit à faire comprendre ce qu'il fait comme métier. Donc cette réflexion avec un partenaire spécialisé de la communication, c'est l'atelier rue 109, avec qui on a travaillé, on a fait un tas d'enquêtes, et on s'est aperçu que la notion de conseil ingénierie et numérique, c'était quand même important, au moins au départ, de s'en servir. Ensuite, il fallait que l'on impulse derrière notre nom une volonté, la volonté évidente, dès l'instant qu'on fait du conseil et de l'ingénierie, y compris dans le monde du numérique, c'est l'innovation. En plus, c'est un mot porteur aujourd'hui, et c'est donc tout naturellement qu'est venu le nom de Synov.
Écoutez, en tout cas, on souhaite un siècle prochain des plus heureux pour ce Synov. Et François Amblard, on vous remercie pour les lecteurs et les auditeurs de Consulting Newsline. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
Merci, au revoir.